Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. On a l'impression que la période que nous traversons depuis quelques mois est l'œuvre d'un scénariste qui aurait eu la main un peu lourde sur les substances psychotropes. Nous voilà tous, presque tous, plongés au cœur d'une série folle où sont réunis tous les ingrédients nécessaires au fonctionnement d'une bonne fiction. Dramaturgie exceptionnelle, des vrais méchants d'un côté, plein de braves gens de l'autre, un virus meurtrier et invisible, des terroristes en vadrouille, Gad Elmaleh qui chante Nougaro, une crise sociale Mouse costaud qui s'annonce et une Amérique au bord de la sécession. Tout ça saupoudré d'un léger parfum de dystopie chauffé à blanc par des réseaux sociaux en roue libre. Il nous manque juste une petite pluie de sauterelles et le compte sera bon. Oui, moi je dis que le scénariste qui nous a pondu cette série, c'est ce qu'on appelle un cador. On peut lui dire monsieur. Ce qui est exactement le cas du scénariste que nous recevons aujourd'hui, Éric Benzekri, auteur de l'excellentissime Baron Noir, décryptage ultra pertinent du petit monde politique hexagonal avec la série donc Baron Noir et qui participe à un documentaire sur les rapports qu'entretiennent la Maison Blanche et la fiction. Alors Maison Blanche, on l'aura tous remarqué, dans l'œil du cyclone de l'actualité en question. Vous allez voir, ça va être passionnant. Pop, 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 en ce mercredi 4 novembre de cette année de merde 2020, c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
À mes côtés, Charline Roux, rebaptisée pour cette émission spéciale Charline Redhead. Hello, Charline.
Hello, mais comment je vous appelle?
I am Tony Decaune. Au menu de Pop Pop Pop, donc un invité spécial pour une émission qui l'est tout autant, car aujourd'hui, direction le bâtiment le plus scruté du monde, la Maison Blanche. Et nous allons nous y intéresser à travers la pop culture, évidemment, et avec ce scénariste de série que nous adorons, Éric Benzekri. Mais avant ça, dans ce dispositif particulier, nous allons vous donner tout au long du confinement des idées de livres à lire, de films à voir, de séries à découvrir ou à dépoussiérer. Et on commence avec les pop choix de celle qui a twerké sur Instagram pour inciter à voter. Lizzo, la chanteuse qui est passée dans ce studio il y a quelques mois. Nous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Votre livre culte, c'est Return to Love de Marianne Williamson, un roman américain sorti en 92 et un best-seller. Charline, l'amour, nous ici, on n'en revient pas. Pourquoi les Américaines y retournent-elles?
Un problème d'addiction sans doute. Le livre détaille les principes fondamentaux qui modifient la vie en profondeur. Le lâcher-prise, le pardon, le sacré, la foi et l'amour comme réponse à la peur. Puisque pour Marianne Williamson, nos peurs nous poussent à ériger des défenses comme l'agressivité, la concurrence, l'égoïsme ou la déprime.
Pourquoi aimez-vous tellement ce livre, Lizzo ?
Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'estime de soi, l'amour de soi. Je ne cesse d'essayer de comprendre ce qu'est l'amour et j'ai l'impression que c'est mon travail en tant qu'artiste d'apporter l'amour au monde. Apporter l'amour à travers mes concerts. Et l'amour égoïste, ça nous éloigne de cette véritable mission d'amour.
Bien. Pour le film, votre choix se porte sur Anastasia. C'est réalisé par Don Bluth et Gary Goldman. C'est sorti en 97. C'est pas un film, un dessin animé, plutôt avec plein de morceaux de chansons à l'intérieur. Qui est cette Anastasia, Charline, un animal domestique, une princesse, un modèle de voiture hybride peut-être?
Ou tout simplement la Benjamine des Romanov, dont le dernier monarque, l'empereur Nicolas II, fut victime d'une révolution. Anastasia s'échappe, mais elle est poursuivie par l'infâme Rasputin. Ceci se passe en 1917 à Saint-Pétersbourg, ce qui n'empêche pas, si on le souhaite, de chanter en français.
Bien, parce qu'on continue dans la version originale.
Oui.
Parce que là, oui, ça ne vous a pas échappé, Lizzo, c'est évidemment la version française. Ça ne m'a pas échappé non plus.
I was translating for the listeners at home.
Mais je traduisais en anglais pour ceux qui m'écoutent là-bas en Amérique.
Alors, dites-moi deux mots d'Anastasia. Pourquoi vous aimez tellement ce film, ce dessin animé?
I've loved it ever since I was a little girl.
Je ne sais pas vraiment, mais je l'adore depuis que je suis petite.
You know, in those things that you love when you're a little baby.
Il y a des choses comme ça qu'on aime depuis l'enfance. Donc ça représente, ça a une place particulière, c'est de la nostalgie. Et puis je me suis intéressée à la famille des Romanov. J'aime bien les histoires de royauté, les monarques, les princesses, tout ce truc-là. J'aimais beaucoup la musique.
And Aaliyah, she sang on the soundtrack.
Et Alia, elle figure sur la BO aussi.
So I loved Aaliyah. So that was just, that was cool too.
Donc ça aussi, ça a remporté le morceau.
Et je crois que c'est un vrai fantasme de petite fille, l'idée de se dire que en fait, on vient d'une famille, on ne le sait pas encore et qu'on est promise au trône.
Je ne sais pas, Charlie. Bah, je crois sur parole.
Non, je parle à des autres.
Ah, pardon.
Yeah, but it's also a tragedy.
Oui, mais c'est aussi une tragédie. Toute leur famille a été assassinée.
Interesting that it actually happened in real life. Like that was a
Mais ça s'est
rumor.
Passé dans la vraie vie, en fait, oui, c'était pas une rumeur.
Kind of cool.
Voilà, j'ai bien aimé ça,
though.
La partie historique, puis j'adorerais découvrir Saint-Pétersbourg.
Alors, Anastasia, ça y est, j'ai mon film, il me manque maintenant une série, et là vous avez choisi RuPaul's Drag Race, c'est un concours de drag queen créé par RuPaul en 2009, diffusé sur Netflix en France. Une série pas comme les autres, très loin, n'est-ce pas, Charline, de Game of Thrones par exemple, encore que...
Ah oh non, non, c'est aussi féroce, mais c'est beaucoup plus glittery, sparkling, donc fabuleux. C'est un concours acharné pour trouver la star des drag queens, avec un jury impitoyable auquel, Lizzo, vous avez participé.
Welcome to the main stage of RuPaul's Drag Race. Michelle Visage, what are you doing here? I thought I blocked you.
I bet you muted me, but I'm still here.
The hilarious Ross Matthews. Have you poked anybody lately?
Like.
From 13 Reasons Why, Miles Heiser.
Hi, Miles.
Hi, Aru. I'm so excited to be here.
And one of my favorite new recording artists, Lizzo, is here. Girl, how you feeling?
Feeling good as hell.
Pourquoi est-ce que vous adorez cette série? Parce que moi, je pensais série, je pensais plus à des séries de fiction.
No, I love reality.
The only reality show that gives you a fantasy as well. Et puis en même temps, c'est un reality show, mais il y a aussi beaucoup de fantaisie. C'est une des émissions les plus créatrices, les plus créatives. Et il faut les voir, ces drag queens, et chaque semaine, elles s'y recollent. Et il y a plein de tragédies, de drames, il y a de l'excitation, on danse, il y a du rire, des larmes, de la beauté. Tout ce qu'on veut réuni en une seule émission. C'est juste incroyable. Et je crois qu'elle n'est pas suffisamment appréciée, cette série. Et puis RuPaul, c'est un de nos trésors nationaux et même un de nos trésors mondiaux. Vous aimez RuPaul en France?
Oui,
beaucoup.
RuPaul
est
beaucoup,
absolument
beaucoup. Beaucoup RuPaul.
Enfin, Lizzo, il me manque une chanson et cette chanson, c'est celle-ci. Eh bien, c'est la vôtre, c'est votre chanson, Lizzo, 'Cause I Love You, et c'est extrait de votre album éponyme, et je ne vous contredirai pas, puisqu'on l'adore aussi, cette chanson. Pour autant, vous avez vécu dans la même ville que Beyoncé, à Houston, Aretha Franklin, à Detroit, vous êtes aujourd'hui à Minneapolis, vivez Prince. Trois artistes, j'ai l'impression, qui ont été déterminants pour vous.
Beyoncé, Prince, Aretha Franklin, yeah.
Oui, Beyoncé, Prince et Aretha Franklin. Le trio génial.
Aretha was born in Detroit.
C'est vrai que j'ai vécu dans toutes ces villes. Aretha a vécu à Detroit et j'y suis née. Beyoncé à Houston et Prince à Minneapolis. Ils ont vraiment participé à façonner ma carrière. Et j'ai beaucoup de chance de vivre à la même époque que ces trois génies. Mais en même temps, moi, je suis différente. J'ai ma propre personnalité. Je suis mon propre Prince, ma propre Beyoncé, ma propre Aretha Franklin. Et j'espère qu'un jour, je représenterai un peu la même chose pour d'autres gens que ces grands-là.
France Inter, Pop, Antoine Decaune.
Et Charline Roux. Le film Anastasia, Return to Love, pour le livre RuPaul's Drag Race, pour la série et sa propre chanson. Voici donc les pop choix de Lizzo, les pop choix toujours d'actu et à consommer sans modération pendant ce confinement. Retour au direct, direction la Maison Blanche dans deux minutes avec le scénariste Eric Benzekri, juste après Childish Gambino et ce morceau génial, This is America.
We just wanna party, I'm just for you. We just wanna party, I'm just for you. I'm just for you. We just wanna party, I'm just for you.
slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm geeking now. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah, yeah.
I'm on get it. Watch me move. This is selling. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak. Black. Know that.
Yeah, know that.
Ooh, get it, ooh,
get it,
ooh, work it, ooh. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband. I got the plug on who a hawker.
Whoa.
They gonna find you like Baca. Blah.
Ooh, America. I just checked my following, listen. You motherfuckers owe me.
Childish Gambino, que nous évoquions hier soir avec Fabienne Synthèse dans cette soirée spéciale élection. Childish Gambino dans ce pop-up-up spécial USA aujourd'hui sur France Inter. Bonjour Eric Benzekri, bienvenue dans cette émission spéciale donc.
Bonjour, merci de m'inviter, je suis ravi d'être parmi vous.
Et bonjour. Je vous présente Charline.
Bonjour Charline.
Bien, avant de parler de White, de House, de séries et de House of Series, le doc de Canal+ auquel vous avez participé, j'aimerais savoir ce qui vous a le plus marqué, Eric, parmi les pop événements de ces dernières 24 heures. Est-ce
This is CNN breaking news.
Ce reporter de CNN qui, par volonté de neutralité, s'est habillé moitié en rouge, moitié en bleu pour les élections hier soir, il est donc certainement toujours dans la même tenue.
Où est-ce ce post Instagram signé Kanye West, donc je cite « Aujourd'hui j'ai voté pour la première fois de ma vie pour un président en qui j'ai entièrement confiance, moi ». Fin de citation. Il a obtenu 50 000 votes, ça c'est mon champion.
Ou bien est-ce Canal+, qui souffle ses 36 bougies aujourd'hui, une chaîne qui a su importer la pop culture américaine chez nous. Alors quel est votre choix, Eric ?
Bah c'est Canal, tout le monde s'en doute. Non, bien sûr.
Un peu corporate.
Un peu corporate. Non, pour dire la vérité, c'est plutôt la première, parce que je pense qu'il va rester longtemps habillé comme ça, le type. Ouais. Ça va durer au moins 3-4 jours. Donc, le pauvre, voilà, est-ce qu'il y a un système pour se laver tout habillé ? Il va falloir innover. Voilà.
Je sais pas, faut faire un suivi, ouais. Un point. On va le suivre, ce type-là. Bon, nous sommes aujourd'hui avec un homme qui aime nous tenir en haleine. Mais qui est ce maître du teasing ? Et ne suis-je pas en train de le teaser, ce maître du teasing, en faisant cela ? Alors, réponse avec son pop portrait. Alors oui, son pop portrait, ben c'est son portrait, bien sûr, mais et c'est signé Charline Roux.
Aujourd'hui, un invité qui pourrait à tout moment, mais on ne le souhaite pas, nous répondre ça.
I'm not commenting.
Une phrase utilisée à moult reprises par Toby Ziegler dans The West Wing, autrefois animal totem de notre invité, le dircom de la Maison Blanche de la série. Alors je parle d'animal totem, j'aurais aussi pu dire animal politique, puisque notre invité les a fréquentés de très près dans ce drôle de zoo qui nécessite d'avoir le verbe affûté. Et ben, c'est le cas de notre invité qui l'a donc mis au service il y a quelques années de Jean-Luc Mélenchon ou Julien Drey. De sorcier discret au sein d'un parti, il passe à démiurge au sein de séries. Affûté, hein, le verbe on vous a dit. Après s'être exercé sur Maison Close et Lascar, place à la grande œuvre politique passionnante et foisonnante, faite d'ambition, de petits arrangements parfois, de ferveur et de conviction souvent, soit Baron Noir. 24 épisodes d'intrigue, non pas à la Maison Blanche, mais son équivalent français, l'Elysée. Enfin, d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment comparer, hein, même si c'est de la série télé ? On a le reste de l'heure pour en parler, et après...
Go to bed, would you please ?
Eric Benzetri, avant de parler du doc House of Series, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il ne va pas être difficile pour la fiction de dépasser la réalité que nous connaissons en ce moment même ? Parce que là, on parle du pire scénario possible, ça revient dans les journaux quand même.
Si, de fait, si on parle du pire scénario, c'est impossible de dépasser ça. Mais par contre, il reste à écrire le meilleur. Je pense que quand tout va bien, il faut écrire sur le pire pour alerter et dire qu'il faut pas se reposer sur ses lauriers. Et quand tout va mal, bah, faut semer un petit peu d'espoir pour empêcher le tourbillon de dégénérer jusqu'au bout, quoi.
Mais on est d'accord que le scénario actuel place la barre très très haute.
Non, mais c'est hallucinant. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on avait pourtant imaginé, parce que c'est, je veux dire, on en entend parler depuis le début. Trump a prévenu. Moi, j'ai été très impressionné par son opération de communication. 9h du matin, au moment où il est le plus haut dans le dépouillement, il annonce que les autres vont tricher. Et évidemment, on dépouille après les votes par correspondance. Mécaniquement, Biden remonte. Et donc, les supporters de Trump vont être chauffés à blanc en disant, oui, il a triché. D'ailleurs, notre président l'avait dit. Donc, c'est... Là, on est, c'est plus de la com. C'est, je sais pas comment qualifier ça, mais en tout cas, c'est une dégénérescence. Ouais. Ouais.
Alors, absolument. je parlais de démiurge de série il y a un instant, mais vous, en tant que showrunner, qu'est-ce que vous auriez dit à un scénariste qui vous proposait une intrigue comme celle qu'on est en train de vivre ? Revois ta copie, c'est trop gros, ça passera jamais.
J'aurais dit de faire attention à pas diaboliser les points de vue. Je lui aurais dit de faire attention parce que je pense qu'il faut toujours comprendre le point de vue de l'autre, hein, si on veut que tout le monde reste devant l'écran. Donc c'est facile, surtout vu d'ici, de dire les supporters de Trump sont des dingues, racistes, homophobes, tout ce que vous voulez. Il faut essayer de les comprendre. Voilà, c'est dur hein, quand je dis ça. Hein. Moi-même, je m'écoute parler, je me dis le mec est un peu fou. Mais très honnêtement, si on fait pas ça, il y a aucune chance de le reconquérir. Donc si vous voulez convaincre quelqu'un, il faut commencer par l'écouter. C'est pas parce que Trump n'écoute pas que ses adversaires doivent pas écouter.
Ouais. On va développer ça dans quelques instants, mais d'abord, pourquoi la Maison Blanche et son président inspirent-ils tellement la fiction ? Pourquoi aime-t-on pénétrer dans les coulisses fictives du pouvoir américain ? Comment les créateurs imaginent-ils leur représentation du pouvoir ? Voilà les questions auxquelles vous répondez avec quelques autres pointures du scénario dans House of Series. C'est le doc de Canal dans lequel on découvre que la Maison Blanche joue un vrai rôle dans les séries.
Le 1600 Pennsylvania Avenue à Washington DC est iconique. Les caméras de télévision ne le quittent pas, surtout depuis que Jackie Kennedy les y a fait entrer pour la première fois en 1962. Mais pour réellement pénétrer son intimité, c'est à l'imagination des scénaristes qu'il faut s'adresser. Ces 132 pièces gorgées d'histoires heureuses, malheureuses, scandaleuses ou glorieuses stimulent l'imagination des créateurs qui l'investissent avec autant d'envie et d'idées qu'un candidat fraîchement élu. La résidence des présidents américains est un véritable personnage de fiction.
House of Series, c'est dispo sur MyCanal, c'est réalisé par Anne-Solène Douguet, et c'est avec vous, Eric Benzekri, mais aussi Eliati de la série The West Wing, Jim Gloster de VIP, David Simon de Plot Against America, et bien d'autres.
Eric Benzekri, vous qui connaissez des pans entiers de la série à la Maison Blanche, vous dites que la Maison Blanche est une référence de pop culture, on l'a entendu dans cette bande-annonce, un personnage de fiction, et que quand on pense à la démocratie, on pense à la Maison Blanche et pas à l'Assemblée Nationale. Comment est-ce que vous expliquez cette fascination pour le lieu ?
Parce que il y a eu un événement assez long dans l'histoire du XXe siècle qui s'appelle la guerre froide. Et pendant cette guerre froide, il y a eu une guerre de communication énorme, une guerre culturelle au sens de Gramsci et d'influence culturelle. Et les États-Unis contre l'URSS et ses satellites ont comment dire, essayer de diffuser l'idée selon laquelle la démocratie était l'apanage des États-Unis, la démocratie avec un grand L, et qu'il y avait un lieu à ça, c'était la Maison Blanche. Et donc toutes les références culturelles, comme vous diriez vous deux, Antoine et Charline, de la pop culture, eh ben voilà, elles sont rattachées à ça. Et vous savez bien qu'il y a le réel. Et il y a la fiction, et la fiction, elle nous influence parce que on en bouffe. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
Mais justement, un personnage de télé-réalité qui devient président des États-Unis dans la vraie vie, aucun scénariste n'aurait pu l'imaginer, ça.
Vous parlez de Trump.
Ouais.
Oui, mais alors vous savez,
pas de Macron.
Ouais, mais alors vous savez, il y en a un autre à l'est, justement. Je crois que c'est en Ukraine, quelque chose comme ça. Je me souviens plus bien. Mais il y a un personnage de fiction. C'est comme si Kadmerad avait été élu président en vrai. Il jouait dans sa série le rôle d'un président, et il a été élu président. Vous voyez.
Vous êtes en train de nous dire que Kadmerad a des visées sur l'Élysée.
Il est pas pire qu'un autre, hein. Il a beaucoup de qualités. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une interprétation, il y a une interpénétration, pardon, du réel et de la fiction. À la fois dans nos séries et à la fois dans le réel lui-même.
Voilà. Mais la pression s'accordait aux séries Un président noir dans 24 heures, Les Simpsons dans leur ensemble, c'est une vue de l'esprit où les scénaristes ont vraiment un très bon baromètre politique?
Non, c'est-à-dire que on essaye d'imaginer des choses incroyables parce que sinon personne nous regarde, et donc on est obligé de prendre beaucoup d'hypothèses, et au bout d'un moment il arrive de tomber juste. Pour les deux exemples que vous avez cités, il y en a 100 000 où les gens sont pas tombés juste, vous voyez.
Éric Benzekri, c'est Donald Trump lui-même qui a déclaré, en révélant qu'il était positif au Covid, je le cite, « L'Amérique est une série qui en est à sa dernière saison et les scénaristes ont perdu la tête ». Fin de citation. Est-ce que d'une certaine manière, il a pas tué le jeu?
Oui, mais c'est trop. C'est-à-dire que c'est un tel niveau de tweetage mental, j'appelle ça du tweetage parce que c'est la façon dont il réfléchit. C'est-à-dire que tout ce qu'il pense, il le dit. En l'écrivant.
Il n'y a pas de surmoi.
Non, il n'y a pas de surmoi. Donc, vous voyez, tout est transparent. Donc, les gens vont préférer quelque chose de plus complexe. C'est pour ça que la série n'est pas morte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que la fiction n'est pas morte. Elle peut relever le défi d'inventer un meilleur réel.
Parmi les présidents américains de fiction, lequel a vos faveurs, et dans un deuxième temps, lequel vous semble le plus crédible dans l'exercice de sa fonction?
Lequel a mes faveurs, c'est Jed Bartlett.
Ouais, The West Wing.
Il est énorme, mais c'est un puits de culture, il est très impressionnant. Et la deuxième question, je l'ai oubliée parce que
lequel
j'ai veillé à cause
crédible
des élections. Lequel serait le plus crédible?
Ouais, l'exercice du pouvoir.
Amélie Dorand II, de Baron Noir.
C'est vrai.
Ouais, je pense qu'elle est très crédible.
Pour David Simon, à qui l'on doit notamment The Wire, une bonne série ne doit pas se contenter de divertir, elle doit pousser à réfléchir. C'est aussi votre mantra, Eric?
Je peux pas me comparer à David Simon, qui est un maître, mais oui. C'est-à-dire, vraiment, il faut garder ça en tête. Si on fait que du divertissement, il faut pas faire de série politique, sauf si on fait une comédie. Et encore, VIP donne énormément à penser et à réfléchir. Parfois, il faut passer par l'humour, par le truchement de la comédie, pour dire des choses encore plus puissantes que si on le faisait dans un drama. Donc je pense que toute série politique, obligatoirement, obéit au précepte que dit David Simon.
Mais alors, dans The West Wing, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que le président Bartlett est démocrate. Dans VIP, d'Armando Iannucci, que vous venez de citer, a priori, Selena Meyer l'est aussi. Dans 24 heures, le sympathique président Palmer. Lui aussi est démocrate, sauf que Logan, lui, qui est beaucoup moins sympathique, est républicain. Dans The Plot Against America, la question ne se pose même pas. Bref, quand ils sont héroïques, ils sont démocrates. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est possible de faire une série politique sans faire de politique?
Sans faire de politique, non. Sans faire de politique, sans avoir un message politique, c'est ça que vous voulez dire.
Mais oui.
Je pense que c'est très difficile, mais par contre, c'est possible de le faire sans écrire un tract, c'est-à-dire en étant un peu fin et comme je le disais tout à l'heure, en respectant toutes les opinions, c'est-à-dire en les présentant de façon objective. Voilà.
Il y a quand même très peu de républicains dans les fictions.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais voyez, Hollywood, c'est quand même un peu particulier. C'est pas la même chose en France. C'est un peu plus mesuré que là-bas. Là-bas, le monde des artistes est politisé depuis très très longtemps, s'engage dans toutes les campagnes. Nous, on le fait de moins en moins.
Eric Benzekri, ne bougez pas, cette émission spéciale États-Unis continue. On va continuer à parler évidemment de House of Series, ce documentaire qui passe sur ma canal auquel vous avez participé. On va écouter un petit peu de musique, c'est Turntables, c'est un morceau signé Janelle Monáe, c'est extrait de Fight for Democracy, c'est un documentaire sur le droit de vote aux États-Unis disponible sur Amazon Prime. Écoutez.
Flipping through my timeline, trying to get my mind right. My city cried out, I got to cool down, but I'm under pressure. Cooking with my Crisco, look at what my fist go. A renegade when I'm in a rage. I got to cool down, but I'm under pressure. I keep my hands dirty, my mind clean. Got a new agenda, with a new dream. I'm kicking out the old regime. Liberation, elevation, education. America, you a lie. But the whole world about to testify. I said the whole world about to testify. And the table's about to, the table's about to turn. Kitchen, then you should do the dishes. Burning down plantations. Ain't no parking, I don't need no validation. I light sage when I'm in a rage. I don't need permission, I got my intuition. Hands dirty, mind clean. A different mission with a new dream. We kicking out the old regime. Liberation, elevation, education. I said America, use a lie. But the whole world about to testify. I said the whole.
Hop, hop, hop. Antoine de Gaulle
et Charline Heureux. Et nous sommes toujours en compagnie du scénariste de Baron Noir, Eric Benzekri, dans cette émission à l'heure américaine. Eric, vous dites avoir appris à écrire en regardant The West Wing, vous chronométriez même les scènes. Ça veut dire que quoi? Sans cette série, pas de Baron Noir?
C'est assez probable. De remarquer pour moi qu'il y avait une possibilité de rentrer autant dans la technique politique et dans le fond politique. En plus, c'était sur une grande chaîne, c'est même pas une chaîne câblée, The West Wing. Ça m'a très impressionné et je me suis dit que oui, c'était possible de faire ça. J'ai adoré voir ça, je l'ai vu 10 milliards de fois. Et je chronométrais les dialogues parce que normalement, des dialogues aussi longs, je veux dire, soit votre producteur, soit la chaîne, elle vous barre, quoi. C'est trop. Et le mec, non seulement ça passe, mais en plus, il accélérait le débit des acteurs pour que ça passe. J'ai adoré ça. C'est de la contrebande. C'est super.
Et il le faisait en marchant, le fameux walk and talk.
Ouais.
Ces plans séquencement. Kad Merad a été nommé aux Emmy Awards en 2017 pour Baron Noir. Est-ce que c'est la consécration de voir son acteur nommé pour sa série dans un pays qu'on adule à ce point pour sa création?
Ben oui, je vais pas me cacher, bien sûr. D'abord pour lui, parce que il le mérite. C'est d'abord sa nomination à lui, mais évidemment qu'on était aussi une troupe, et donc ça rejaillit sur nous tous, quoi. Mais Kad est exceptionnel là-dedans. C'est dingue.
Mais ceci étant dit, est-ce vrai que quand son nom est sorti initialement pour Baron Noir, vous avez dit Kad Merad, ça va pas ou quoi? Ce qui lui ferait donc un point commun avec Martin Sheen, qui à l'origine ne devait apparaître que dans 4 épisodes de The West Wing. Vous êtes bien accommodé finalement.
Ben oui, et puis à chaque fois qu'on se voit, il m'insulte, donc je vais le payer jusqu'à ma mort, voilà, et je me repentis, et si jamais j'étais religieux, je m'auto-flagellerais.
Non, mais dites-lui, c'est comme Martin Sheen. C'est très bien.
Oui, c'est, mais alors je le savais pas, donc maintenant j'aurais cet argument. Merci de me le filer parce que c'est très très dur. À chaque fois qu'il m'en parle, je rougis, j'ai l'air d'un abruti, je sais pas quoi faire. Voilà, non non, bien, oui, je pensais pas, je suis comme tout le monde quoi. Mais c'est une sorte de ciao pantin. Voilà.
Mmh. Eric Benzekri, vous connaissez les séries, la politique et encore plus les séries politiques, et vous dites, je vous cite, ce qui m'intéresse, c'est la dramaturgie. S'il s'agit juste d'écrire de la politique, autant faire des tracts. Ce que je veux, c'est écrire une bonne série. Et d'ailleurs, je suis bien meilleur auteur de séries que politique, car ce milieu était beaucoup trop violent pour moi. Fin de citation. C'est donc plus violent dans la vraie vie. Ça vaut aussi pour Game of Thrones.
oui, c'est plus violent dans la vraie vie, bien sûr. Ouais. Et puis moi, comme j'aime encore beaucoup les hommes et les femmes politiques, je retiens ma plume. Donc c'est édulcoré et heureusement que ça l'est. Mais non, mais chacun a sa sensibilité. Moi, je suis trop sensible pour aller dans l'arène comme ça. J'ai besoin de temps pour digérer, pour affronter les situations difficiles. Je suis bien meilleur analyste que acteur.
Alors, puisque vous parlez de retenir votre plume, on parlait il y a un instant d'Armando Iannucci. Est-ce que de la comédie politique, comme il avait fait sur The Thick of It en Angleterre ou VIP aux États-Unis, ça vous plairait? Ou est-ce que selon vous, c'est pas un produit transposable en France?
Si, je pense que c'est transposable. D'ailleurs, il y a une série, j'ai vu un épisode qui était vraiment pas mal, qui est Parlement, je pense.
Parlement, oui.
Ouais. Donc il y a des incursions, il y a des tentatives. Je pense qu'il faut continuer à explorer tout. Je pense que la politique, tout le monde vit au quotidien avec elle, que surtout dans les périodes de retour du tragique dans l'histoire, comme la période qu'on traverse en ce moment, il faut l'analyser. On peut pas rester à côté. Il y avait un vieux slogan gauchiste quand j'étais petit. On disait, si tu t'occupes pas de politique, la politique s'occupera de toi. Les gauchistes disaient beaucoup de bêtises, mais ça, c'était vrai.
Dans ce doc passionnant House of Series, il y a une phrase que j'aime beaucoup, et non pas une frise, c'est celle du réalisateur Thomas Schlamet qui dit « La pop culture ne va pas décider, mais il serait idiot de croire qu'elle n'influence pas ». On avait eu un peu la même réflexion à l'époque des Guignols, hein, au moment de la réélection l'élection de Chirac. Vous le rejoignez sur ce point ?
Oui. La question, c'est le degré. On est incapable de dire, sur l'affaire des Guignols et de Chirac, par exemple, à combien de pourcents ça a joué, on est incapable de le dire. Mais ça crée une ambiance. Voilà. Et ça crée une ambiance, et dans tous les sens. C'est-à-dire que il n'est pas possible de quantifier, mais je pense que, par exemple, dans le cas d'une série comme celle, la dernière de David Simon sur Plot Against America, l'adaptation de Philip Roth, je pense que, évidemment, c'est d'abord une série sur Trump. Alors qu'il n'y a pas une fois le mot Trump, et pour cause, c'est pas la même époque. Mais c'est une série sur l'importance de la démocratie. La dernière saison de Baron Noir, elle est aussi là-dessus, c'est-à-dire sur les règles, le cadre dans lequel on peut se foutre sur la gueule. Si ce cadre-là, le cadre démocratique explose, on bascule dans autre chose, ça s'appelle la guerre.
Justement, Eric Benzekri, vous avez décidé d'annoncer qu'il n'y aurait pas de quatrième saison de Baron Noir pour de multiples raisons, notamment celle du coronavirus. Le corollaire du Covid, avez-vous dit, c'est l'incertitude, l'impossibilité de prévoir. Alors, ce qui s'entend évidemment totalement, mais quand vous voyez Emmanuel Macron qui s'exprime en direct à la télé devant la France entière pour annoncer une nouvelle saison du confinement, ça vous donne pas envie de vous y recoller quand même?
Au confinement ou à Baron Noir? Parce que, comment dire, au confinement, pas du tout, mais on y est bien obligé. À Baron Noir, non, dans quelques années, si Canal est intéressé, si mon producteur est intéressé, sans doute il y aura des choses à dire, mais je pense qu'il y a besoin de temps pour décrypter les choses. Et en réalité, en trois saisons de Baron Noir, on est revenu sur 30 ans de politique. Vous voyez, et là, on est en direct, on commente le réel en permanence. Il n'y aurait pas de distanciation. Ouais, et je pense que quand il n'y a pas de distanciation, on retombe dans le tract. Moi, je ne veux pas faire ça.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller à nous en matière de série, ceux qui, comme moi, se sont orphelins de Rick Vart?
Une série politique ou une série tout court?
Bah, une série politique, tant qu'à faire.
Une série politique, il faut regarder d'urgence Plot Against America. C'est une urgence. Et une série tout court, quand même, parce que je suis impressionné par ce que j'ai vu, là, Queen Gambit, c'est sur Netflix et c'est sur une joueuse d'échecs. Je suis très impressionné et par la réalisation et par l'écriture.
Et l'actrice.
Et l'actrice, waouh. Wow. Ouais, non, c'est puissant. Ouais. Et le point commun avec Maison Blanche ou d'autres séries politiques, c'est que c'est le portrait d'un cerveau. Voilà. Mm-hmm. Et ça, c'est super. Ça, c'est vraiment. Et puis ça donne envie, on aimerait bien avoir un cerveau comme elle est là, quoi.
Voilà. Nous en parlez pas. Voilà. Bon, pop break dans ce pop. Mon cher Eric, je peux pas mettre mon doigt dans ma bouche, ni dans la vôtre, hein, d'ailleurs, je vous rassure, oui, pour faire pop. Non, mais je peux quand même vous dire que c'est l'heure des pop news.
La reprise engagée est assez sublime du jour. C'est à Anony, chanteuse trans révélée par Antonienne de Johnson, qu'on la doit. L'artiste est vent debout contre Google, Twitter, Amazon et Facebook en particulier. Gros pourvoyeur de fake news. Faisons le jeu de qui vous savez. Facebook qui voulait de surcroît utiliser ladite reprise dans une publicité. Anony l'a donc clippée et a sorti de messages militants. Et cette reprise, la voici. Go on now, go walk out the door. Don't turn around now, 'cause you're not welcome anymore. I Will Survive par Anony est à retrouver sur la page de Pop sur franceinter.fr.
Musique toujours, et parce qu'on ne saurait réduire les États-Unis à des slogans qui les veulent great again, un homme a décidé de calmer l'anxiété générale liée à cette election day en proposant un rappel musical et folk, America's Beautiful. C'est James Taylor chantant depuis chez lui. America, America, God shed his grace on thee. Un hymne à retrouver sur la chaîne YouTube de James Taylor.
On quitte les États-Unis pour y revenir dans un instant du drama, du scandale, de la romance. Et Julie Andrews, tel est le menu de la chronique des Bridgertons, puissante dynastie, dont la fille aînée Daphné cherche un mari dans le Londres de la Régence, froufrou garantie. Ce sera à voir sur Netflix le 25 décembre, mais histoire de patienter, ce sera la prescription du jour. Rattrapons en partie, en cette période confinée, une partie de l'œuvre de celle à qui l'on doit cette chronique des Bridgertons, soit Shonda Rhimes, choronneuse en or surnommée The Queen of Television, celle qui a trouvé la formule gagnante, faire du soap moderne, un rythme et sophistiqué dans des environnements différents et ce avec un casting divers et inclusif, ça change. Alors à rattraper si vous le souhaitez en cette période de confinement parmi les grandes œuvres siglées Shondaland, je vous propose Grey's Anatomy, créé en 2005, soit le soap à l'hosto, on opère peu mais on s'y consume beaucoup, la médecine et les intrigues amoureuses compliquées s'y pratiquent encore dans la saison 16 actuellement diffusée sur TF1. Ceux qui fantasment sur le pouvoir peuvent rattraper Scandal, soit le soap à la Maison Blanche, drôlement d'actualité, une série au rebondissement zinzin dans laquelle Olivia Pope conseillère en com boit du vin rouge dans des costumes blancs immaculés sans se tacher et couche accessoirement avec le président de la République. Cette saison à rattraper sur Amazon Prime. Et enfin ma préférée, le soap au tribunal d'actualité aussi avec des vrais morceaux de crime dedans, How to Get Away with Murder, série dans laquelle la géniale Viola Davis et Annalise Keating, avocate et prof de droit pénal qui fait rien qu'à être au cœur, parce que instigatrice parfois, de machinations et d'affaires de meurtres violents, une série qui fait plaider plaisir coupable. Les 6 saisons sont dispo sur Netflix et de vraies questions y sont posées. Why is your penis on a dead girl's phone?
France Inter. Pop. Antoine de Caunes. America,
America. James Taylor.
Bravo Charlie. Et merci pour toutes ces informations précieuses. Eric Benzekri, on va parler ensemble de Philippe Troff, du Parrain, de Tony Soprano et de pop culture, juste après le dernier morceau du groupe de rock américain Les Strokes. Lay your hand across my face. Les Strokes, Selfless, cet extrait de The New Abnormal. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Steal my guitar, ça, c'est le son pop d'Eric Benzekri. While My Guitar Gently Weeps de George Harrison dans sa version du Concert for Bangladesh avec évidemment Clapton à la guitare solo. C'est précis, pointu et c'est ce qui vous évoque la pop culture, Eric. Expliquez-nous pourquoi.
Mais parce que d'abord, c'est un concert et ce concert-là, il est, c'est une mobilisation pour le Bangladesh après la catastrophe naturelle. Et c'est toute une histoire de la pop. C'est aussi l'histoire de SOS Racisme qui faisait des concerts pour mobiliser. C'est la fusion de la mobilisation des citoyens, de la jeunesse en particulier, avec la musique. Mmh. Et puis il y a Clapton quoi quand même, et Harrison, donc il y a les Beatles, Clapton, c'est une génération dorée quoi. Donc ils se répondent à la guitare, c'est un morceau qui me transporte depuis très longtemps.
Bien, voyons si vous êtes aussi pointu pour la suite avec votre pop list, une pop list américaine évidemment. Eric Benzekri, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, un personnage de série. Pour le livre, vous avez choisi Pastorale américaine. C'est un livre signé de l'auteur américain Philip Roth en 97. Charline, Philip Roth, c'est bien d'un de ses romans qui a été adapté. L'excellente série dont nous parlions, Plot Against America, non? On n'en sort pas?
Absolument, Antoine. Et là, en l'occurrence, dans celui-là, c'est la vie de Seymour Levoff, un homme d'affaires juif américain du New Jersey, dont la vie bourgeoise heureuse se trouve confrontée aux tourments politiques et sociaux des États-Unis des années 60.
Alors Eric Benzekri, pourquoi ce livre plutôt que « Qu'est-ce que le Parti chrétien-démocrate » de Christine Boutin, vendu à 58 exemplaires, vous qui aimez la politique?
Parce que je pense que c'est beaucoup plus politique que le bouquin de Christine Boutin. C'est l'histoire d'une chute, de quelqu'un qui est extrêmement bien intégré dans la société américaine et qui vient pourtant de l'immigration juive, et qui a une ascension sociale quasiment linéaire. C'est une sorte de surdoué dans son école et dans les résultats sportifs. Donc c'est un Américain, un nouvel Américain, mais c'est un Américain. Mmh. Et en s'intégrant, sa fille, elle s'engage dans le gauchisme des années 60 et devient terroriste. C'est un drame absolu, et je pense que ça renvoie beaucoup à l'époque actuelle, parce que il y a le retour de la violence dans l'engagement politique, ouais, qui est flippant pour des parents. Et comme j'ai plus le même âge que quand je l'ai lu au début, je le lis plus de la même façon. Et peut-être je suis un boomer, je sais pas.
Si je vous dis que Philip Roth est l'écrivain préféré de Springsteen, ça vous fait plaisir ou
de qui?
Ou bien
de Bruce Springsteen?
Ouais.
Je le savais pas. Je le savais
pas. Et voilà. Ravi de vous l'apprendre. Alors, Eric Benzekri pour la suite, ambiance. Mais oui, car vous choisissez Le Parrain 2, film de 1974, dirigé par Francis Ford Coppola. Charline, baisez mon anneau et résumez-nous l'histoire.
Je vous en prie. Depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille, amené à négocier avec la mafia juive. Il perd alors le soutien d'un de ses lieutenants, Frankie Pentagalli.
The history of two generations of crime. The Godfather, part 2. Don Vito Corleone and his son Michael. Both had seen the ones they loved most cut down before their eyes. Both commanded the most powerful and merciless crime organization in the world.
Is it true that in the year 1950, you devised the murder of the heads of the so-called five families in New York?
It's a complete falsehood.
The Godfather Part 2 is the final chapter in the violent history of the Corleone crime family.
Godfather Part 2. C'est donc le choix d'Eric Benzekri. Eric, qu'est-ce qu'on dit là? Deux mots, chef d'œuvre?
Oui, c'est un chef d'œuvre. C'est une plongée dans l'histoire encore des États-Unis. Il y a deux époques. La partie en Italie, en Sicile, elle est exceptionnelle, et la partie aux États-Unis avec le fils, avec Michael, elle est dingue aussi. Donc en fait, quand vous passez d'une époque à une autre, souvent dans un film, vous dites ah moi je préfère quand c'est dans le passé, etc. Bon là non, là chaque minute vous êtes à fond dans l'histoire, il y a une cohérence totale, c'est une assignation à identité, une assignation à dans l'héritage, continuer ce qu'a fait le père inlassablement, même quand on n'est pas d'accord au début, et voilà. Et donc cette entrave à réaliser sa propre vie, le plaisir finalement qu'on y trouve, la jouissance même à se couler dans les habits du père, elle est dramaturgiquement, on en parlait tout à l'heure, exceptionnelle.
Voilà. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas insensible aux histoires de mafia, parce que pour ce qui est du personnage de pop culture, vous nous avez répondu Tony Soprano, des Sopranos, hein, de David Chase. Charline, vous savez à quel point ce choix m'enchante, mais... Rapide chez nous quand même, les Sopranos, pour les millénials.
Ah, ça y est, le retour de Jean Lassalle. Tony Soprano, c'est le parrain de la famille DiMeo, qui, comme son père, souffre de crises de panique depuis son enfance, qui lui font parfois peur de conscience. Après des examens médicaux, il est amené à consulter en secret une psy, le docteur Jennifer Melfi, tout en continuant à vivre une vie de famille plus ou moins épanouie entre sa femme Carmela et ses enfants Meadow et Anthony.
You could have killed those girls.
Now that would have been interesting.
What? What did you just say?
Death just shows the ultimate absurdity of life.
What is this? Are you trying to get me to lose my temper because I'm about to put you through that goddamn window?
See? That's what I mean. Life is absurd.
Don't say that! God forgive you!
There is no God.
Hey!
Where is this coming from?
What did they teach you to scrap at school?
Tony Soprano avec ce génie de Gandolfini. Eric, c'est un personnage que vous avez scruté, observé, décortiqué.
Ouais, au millimètre, parce que c'est le premier personnage de série qui est pas un héros et qui est pas un anti-héros non plus. C'est entre les deux et ça dépend des scènes, et même dans la même scène il se transforme. Vous voyez qu'il y a un cousinage avec notre ami Cad. Voilà. Non mais c'est la nouvelle génération de séries où vous êtes mal à la fin d'un épisode. Voilà, vous aimez une ordure et en même temps, c'est pas vraiment une ordure, donc vous pouvez vous pardonner de l'aimer, et donc ça vous met dans un vertige, y compris par rapport à vous-même, le fait que ce soit une série de psy avant d'être une série de mafia accentue ce fait. Voilà, moi je dès qu'il rentre chez le psy, je suis comme un fou, quoi. Voilà, non, c'est un personnage qui est plus que touchant, qui est désarçonnant, qui est très inspirant, et en fait quand je suis en panne d'inspiration, c'est-à-dire à peu près tout le temps, je regarde un ou deux épisodes et ça me fait un peu de bien, parce que je me dis que je me souviens pourquoi je m'inflige cette torture d'écrire et de me trouver nul à chaque scène. Voilà.
Bon, terminons cette pop liste, Eric Benzekri, avec votre chanson culte. Cette chanson, c'est celle-ci. Our House, du groupe de Los Angeles Crosby, Stills, Nash & Young. Hein, c'est une chanson de 1970 qui apparaît sur l'album Déjà Vu et Déjà Entendu, donc. Ça sonne un peu comme un générique de série, non?
Un peu. En fait, je trouve que c'est un peu de l'art naïf, cette chanson. Et elle me fait du bien, elle m'apaise. J'ai l'impression de faire un voyage en arrière dans les années 70 où on regardait l'air et où, en fait... Voilà, le slogan, c'était pas « je vais tout casser », c'était « peace and love ». Et même s'il fallait tout casser pour obtenir « peace and love », c'était quand même « peace and love » la finalité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y avait un but positif. Voilà. Ouais.
Alors, je résume. Philippe Roth, le parrain de Tony Soprano, « Our House ». Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
I'll light the fire.
The history of two generations of crime.
Place the flowers in the vase.
It's a complete fossil.
That you bought today.
Life is absurd.
Don't say that!
Our house.
God forgive you!
It's a very, very, very fine house.
There is no God.
Hey!
Now everything is easy 'cause of you.
What did they teach you to scrap at school?
Today.
Et vous venez d'écouter la bande-annonce d'une série à venir sur Eric Benzekri. Ça a de la gueule.
C'est top. Ah, c'est top.
Bien, poursuivons cette bande-annonce en écoutant un peu plus de ce morceau, Our House.
light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs.
Stills, Nash & Young, Our House. C'est le choix d'Eric Benzekri, notre invité, venu parler avec nous aujourd'hui de pop culture. Merci infiniment, Eric, d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions.
Merci à vous, c'était très sympa.
Merci. House of Series, le doc de Canal+, est à voir sur MyCanal, hein, tout comme les trois saisons de Baron Noir qui sont plus que chaudement recommandées. Merci, Charline Roux.
Merci, Antoine.
Et merci aussi à toute l'équipe de Pop 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 et à Johanna Gabrick qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans Pop Pop Pop, l'auteur de BD, Cyril Pedroza. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets, 3615 Pop Pop Pop.